Bienvenue à toutes et tous dans Le Placard, le podcast qui vous ouvre les portes sur un monde plus queer.
Productrice, directrice, écrivaine, la liste ne s'arrête pas quand on parle de la carrière de Deborah. Connue à l'international avec des films tels que The World Can't Wait, qui a reçu plusieurs awards en 2018, tu participes également à de nombreux festivals tels que Film Pride, qui s'est déroulé du 16 au 31 août cette année, ou encore Brighton and Hove Pride's Official LGBTQ+ Film Festival. On peut te retrouver à la Brighton TV comme présentatrice, mais aussi sur de nombreuses autres productions comme monteuse. En fait, la liste ne semble pas s'arrêter si on fouille un peu le net, et on a pu constater que ta loyauté envers la communauté LGBT est sans égale. Mais, la culture queer a-t-elle un avenir dans le cinéma? Alors, c'est le sujet qui va orienter notre podcast du jour.
Alors, pour la petite anecdote, pardon, afin que nos auditeuristes soient au courant, toi, donc Déborah et Eva, vous connaissez un peu, c'est bien ça? Et je ne sais pas si vous voulez nous expliquer un petit peu le lien qui vous lie.
Oui, absolument. Des meufs, tu veux que je fasse ou
ben, écoute, vas-y, je te laisse.
Et ben donc, on s'est rencontrés dans un groupe, dans le groupe de la Diva Community. Diva, c'est un magazine pour les femmes de la communauté queer en Angleterre. Et Eva, tu recherchais justement quelqu'un pour t'aider à monter tes vidéos YouTube. On en a fait deux pour l'instant.
C'est ça, ouais. On a commencé à discuter et on en est là.
D'accord. Donc, ça fait combien de temps que vous travaillez ensemble, du coup?
Ça va faire quelques mois, non? Parce qu'il me semble que j'avais posté ça durant courant août, quelque chose comme ça. Mmh. Et c'était juste après une période de pause, en fait, de la chaîne YouTube, qui là commence à... Grâce à toi aussi, j'étais un peu en burn-out de travail, et du coup, je me suis dit, allez, faut trouver, j'aimerais bien trouver quelqu'un avec qui travailler, et aussi donner le travail à une personne queer, vu que la chaîne est queer. Et du coup, j'ai eu la chance que tu répondes à mon message, je crois que c'était une semaine un petit peu après. Et que tu sois d'origine française et que tu sois au UK. Alors j'étais en mode, ah, c'est trop génial.
Tu as eu de la chance, hein, ça tiquait tous les critères que tu recherchais.
Ouais, en effet.
Super, bon bah merci. Alors du coup, avant de commencer, comme à notre habitude, on va faire un tour de table. On va dire nos pronoms, où est-ce qu'on réside et nos noms. Du coup, Eva, si tu veux commencer.
Alors moi, c'est Eva, j'utilise les pronoms « elle ». Et je m'identifie comme lesbienne. J'habite sur la côte nord de l'Angleterre, sur Liverpool.
Ok, donc je vais suivre. Donc moi, c'est Mephi. J'habite à Brighton, sur la côte sud anglaise. Et je suis queer et mes pronoms sont elle et... Oui, elle. Déborah, à ton tour.
Alors moi, c'est Déborah. Et en fait, c'est la même chose que toi, Mephi. Mon pronom, c'est elle. J'habite à Brighton. En fait, on s'est rendu compte qu'on est à même pas 5 minutes de l'autre. Donc, c'est génial. Et oui, je viens de France aussi.
Super. Très bien. Et tu t'identifies comme...
Ah, pardon. Oui, je savais qu'il me montrait quelque chose. Je suis queer aussi.
Tu es queer aussi. Super. Merci, Déborah. Alors, je pense qu'on peut continuer avec les questions.
Allons-y. Commençons dans le vif du sujet.
Let's go. Donc, Déborah, un gros focus sur toi. depuis combien de temps es-tu réalisatrice?
Alors, réalisatrice, ça fait juste 5 ans, en fait. J'ai commencé avec une web-série. Je ne sais pas si on dit en français, ouais, web-série. Ouais. Je devrais dire, avant qu'on commence, un avertissement. Ça fait plus de 20 ans que je vis en Angleterre, 24 ans. Donc, l'anglais, c'est ma langue principale. Donc, mon français n'est pas terrible. En général, je parle juste français quand je parle à mon fils, qui a 1 an. Donc, le vocabulaire est un peu basique. Donc, je vais peut-être avoir des problèmes, mais bon, je vais faire de mon mieux. Donc oui, la première chose que j'ai réalisée, c'était une web series qui s'appelle As We Are. C'était une web series queer qui se passait à Brighton. Et en fait, la raison pour laquelle je suis devenue réalisatrice, c'est parce que je n'arrivais pas à trouver le bon ou la bonne réalisatrice pour m'aider pour ce projet. Et aussi parce que je finançais tout ça moi-même. Je pouvais pas, en fait, j'avais pas les moyens d'en payer un. Donc j'ai fini par le faire moi-même et je me suis rendu compte qu'en fait, j'adorais ça. J'adorais travailler avec les acteurs. J'adorais travailler avec une équipe et être vraiment dans le feu de l'action, quoi. Donc, j'ai fait As We Are. Après, j'ai fait un court-métrage que tu as mentionné, Eva, qui s'appelle The World Can Wait. Et après, j'ai fait une. Alors, music video, c'est quoi? C'est un clip musical, on dit en
Ouais,
français?
un clip, ouais. Un
Ouais, un
clip?
vidéoclip,
Ouais,
ouais.
vidéoclip. Donc, j'ai réalisé un vidéoclip. Donc, je n'ai réalisé que 3 projets jusqu'à maintenant. Et c'est parce que, justement, je finance tout moi-même. Et que ben, j'ai plus d'argent. Et que aussi, bon, en tant que réalisatrice, bon, je peux passer le reste de ma vie à faire des courts-métrages, mais bon, je voudrais vraiment passer à quelque chose d'un peu plus substantiel. Mais avant d'être réalisatrice, bon, j'écrivais quand même beaucoup. J'avais fait un film avec mon ex qui s'appelait Dog Day. J'avais écrit, elle l'avait réalisé, avec une personnalité anglaise qui s'appelait Bella Amber, qui était assez connue dans les années 80 en Angleterre. Qui est décédée il y a 2 ans, elle avait dans les 70 ans. Et avant ça, avant ces films que j'avais écrits, je faisais du théâtre, donc j'écrivais pour le théâtre à Londres. Donc ça fait quand même dans l'industrie, ça fait un peu plus de. Enfin, ça fait presque 20 ans en fait que je suis dans l'industrie.
D'accord, ok. J'aimerais juste revenir sur un point que tu as cité. Tu as dit que tu n'arrivais pas à trouver la bonne ou le bon réalisateur. Qu'est-ce qui bloquait?
Eh ben, c'est une très bonne question. En fait, peut-être que juste j'avais trop de boîtes à box to tick, je sais pas. En fait, c'est que ça passait pas vraiment j'avais pas trouvé la personne avec qui ça passait le plus, quoi. Et je pense qu'en fait, c'était parce que c'était mon projet et que je devais le faire moi-même. En fait, j'ai réalisé que c'était peut-être pour ça. C'est parce que j'étais trop proche de ce projet et je pouvais pas le donner à quelqu'un d'autre. Il fallait vraiment que ce soit moi. Et en fait, ça m'a fait réaliser, que dans le passé, quand j'écrivais et qu'il y avait quelqu'un d'autre qui le réalisait, mon film, j'étais derrière eux en fait et je leur donnais des instructions. Donc en fait, je réalisais la réalisatrice. Donc je pense qu'elles ont pas trop aimé ça, quoi. Et c'est pour ça que je me suis dit, ben, en fait, je sais pas ce que je suis une réalisatrice. Je suis pas juste auteur, je suis auteur-réalisatrice. C'est pour ça.
D'accord, ok.
Wow. Ok. Petite question un peu plus un peu plus pas fun, mais un peu plus ouais, fun, allez, on va dire ça. Donc, quel est l'endroit le plus insolite où tu es filmé?
Alors, et c'est parce que justement, je finance tous mes projets. Donc, au niveau insolite, j'ai pas d'endroit insolite, mais parce que justement, j'utilise mes propres moyens. J'ai filmé beaucoup dans mon appartement pour les scènes où il fallait un appart. Et en fait, je me suis rendu compte au moment où je montais mon showreel, on dit en français,
C'est
ça se
ça,
dit showreel?
ouais.
Donc, au moment où je montais mon showreel, je me suis rendu compte que il y avait une scène dans mon clip musical et dans ma web série qui se passait dans le couloir chez moi, dans mon appartement, avec le même cadre, donc la même photo. Et je m'en étais jamais rendu compte. Et en fait, le problème quand tu vois les deux avec juste quelques secondes d'écart, comme tu fais dans un showreel, tu te rends vraiment compte, mais qu'est-ce que c'est que ça? En fait, il y avait la même chose dans les deux. Il y avait la même scène dans les deux vidéos. Donc, en fait, ce serait une recommandation pour ceux qui justement filment dans leurs propres locaux. Faites attention et utilisez
Au décor.
d'autres décors pour vos productions différentes. Oui.
T'as l'œil quand même, vu que tu
Ouais,
t'es rendu compte.
oui, je m'en suis rendu compte vraiment trop tard, mais bon, c'est comme ça, on
Ça
apprend,
arrive,
hein.
ouais. On
Ça
apprend,
arrive.
c'est vrai.
C'était pas dans ah mince, une grosse série, comment ça s'appelle? Durant le film, avait une cup de coffee Costa ou un truc comme
Ah,
ça. Game of
C'est pas vrai.
Thrones.
Ouais, c'est pas, ça va
Ça
pas
arrive.
avec l'époque.
Ouais, c'est ça. Mais bon, même dans les plus grandes productions, ça arrive, donc.
Ah oui,
Exactement.
c'est ouais, par inadvertance, je pense que ouais. Quand tu en plus si tu es vraiment dans le, enfin, en train d'enregistrer, etc. Tu es tellement focalisé que je pense que des fois tu perds un peu, t'as pas l'œil extérieur. Et une fois que tu as regardé du coup le show, tu te dis ah mince en fait. ouais.
Exactement. Et c'est justement quand tu as une petite équipe et que tu n'as pas quelqu'un, parce que dans les grandes productions, justement comme Game of Thrones, tu as quand même des gens, c'est leur boulot, la continuité. C'est ça, en français, continuité. Ouais, oui, la continuité, oui. C'est leur boulot, quoi. Donc, quand même, ça, c'est un peu impardonnable d'avoir une... J'aurais vraiment pas aimé être cette personne. Mais c'est vrai, dans les petites productions comme les miennes, il y avait personne pour me dire « Et tu l'as déjà utilisé, ça
?» Ouais, donc, c'était toi qui devais tout faire, en fait. Donc, ouais.
Ouais.
Tu es excusée, du coup.
Alors, juste pour remettre dans le contexte pour nos auditeurices, un showreel, c'est un CV vidéo... qui peut se traduire sur plusieurs scènes, en fait, d'un... Enfin, ouais, c'est un CV vidéo pour les réalisateurs, pour les acteurs, etc.
Tu m'as appris un nouveau mot, merci. CV vidéo, voilà.
Ben, ouais. Après, merci. Ouais, j'essaie de l'expliquer. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais je pense que c'est
la ça, meilleure... en fait. Hein.
La meilleure manière, ouais.
Moi, ouais, je pense que ça a du sens, si, c'est ça.
Ouais, ça a du sens, ouais. Mm.
Alors, du coup, est-ce que tu as déjà travaillé pour des productions françaises ?
Eh bien, malheureusement, non. S'il y a des producteurs français qui nous écoutent, eh ben, je suis disponible. Mais le problème, c'est que comme je suis partie en Angleterre quand j'avais 18 ans, je n'ai jamais travaillé en France. Donc, je suis complètement inemployable, non ? Ça, c'est unemployable.
Ouais, unemployable.
Ouais. Non, en fait, je mens. J'ai eu un boulot. Je distribuais les journaux dans les postes en France. Je n'ai jamais travaillé dans les productions françaises. Et le problème, c'est que comme j'ai juste travaillé sur des productions anglaises, le vocabulaire de l'industrie, je l'ai en anglais. Donc, il y a beaucoup de mots par rapport au film que je ne connais qu'en anglais et pas en français. Donc, je pense que j'aurais beaucoup de mal.
D'accord.
Après, tu penses que probablement qu'il y a des termes aussi en anglais utilisés en français, non ? Je sais pas.
Oui, il y en a de plus en plus, c'est vrai. D'ailleurs, je sais pas si ça m'horrifie un peu. Même bon, si mon anglais est meilleur que mon français, je trouve que le français est une langue magnifique. Et c'est vrai que quand je retourne en France, j'entends ma famille qui utilise des mots anglais. Elle me dit mais on a un mot en français pour dire ça. Pourquoi vous utilisez anglais ? Donc c'est vrai que ce serait pratique pour moi, mais d'un autre côté, bon, ce serait quand même bien de garder le français aussi. Okay.
Alors, où résidais-tu, justement, vu qu'on parle de la France, où résidais-tu en France et qu'est-ce qui t'a fait t'installer en Angleterre ?
Alors, je viens du 91, l'île de France. Je pense que ça s'appelle toujours l'île de France parce que je crois que récemment, on a changé des départements, c'est ça ?
Ouais, ils ont réorganisé un peu les départements, mais je pense que si, c'est ça. Hein.
Ouais, donc c'est la banlieue parisienne, en fait. Je me suis installée en Angleterre parce que j'ai été tombée amoureuse de Londres quand j'étais très jeune. Et que j'avais réalisé quand j'avais 13-14 ans que j'aimais les filles. Et qu'en France, eh ben, c'était, y avait personne au niveau représentation à la télé, dans les médias, il n'y avait personne comme moi. Quoi. L'Angleterre m'avait toujours, Londres notamment, m'avait toujours paru être très progressive. De ce niveau-là. J'étais aussi végétarienne à l'époque. Maintenant, je suis Bon, je sais qu'on dit vegan maintenant, mais encore, c'est un mot anglais. C'était végétalienne. Et bon, je dis toujours végétalienne parce que pour moi, c'est... je sais pas, vegan, moi, ça me fait pas penser à Renaud Mégane. Donc, j'étais végétarienne. Et à l'époque, en France, c'était impossible, quoi. Donc, Londres me paraissait être vraiment idéal pour tout, quoi.
Un peu plus ouvert au niveau, ouvert d'esprit niveau culturellement et ouais.
Exactement.
C'est vrai. C'est toujours le cas un petit peu aussi.
Oui.
Non, c'est marrant. Ouais, c'est marrant que même dans la capitale, on a un pub lesbien et pas plus quoi en Île-de-France. Comment il s'appelle la
mutinerie ? C'est différent.
Non.
Ah, la mutinerie. Ouais. Après, je pense qu'il y a un petit peu plus d'endroits maintenant quand même. Comparé, je pense, à avant, quand tu étais jeune, du coup, Déborah. Mais après, on va dire que niveau... Enfin, après, quand je regarde sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression que ça change quand même pas mal. Il y a quand même beaucoup plus de personnes queer en France. Mais je ne sais pas comment ça se passe vraiment si on sort le soir, par exemple, parce qu'il y a des endroits particulièrement où on connaît la mutinerie. Mais je pense qu'il y a d'autres endroits qu'on ne connaît pas particulièrement. Mais ouais...
Il y avait, je me souviens, quand j'avais 17 ans, il y avait une boîte à Paris, parce que j'y étais allée quelques fois. Je ne me souviens plus comment elle s'appelait, mais c'était une boîte lesbienne et elle était vraiment très bien. Je me demande d'ailleurs s'il n'y en avait pas deux, ou c'était juste une soirée tous les mois, je ne sais pas, mais je sais que c'était très bien. Et puis, il y avait dans le Marais aussi, il y avait une librairie. Librairie, c'est bien là où on vend les livres en français, parce qu'en anglais, c'est la bibliothèque. Donc, ouais, librairie, c'est
ouais,
ça.
C'est ça.
Il y avait une librairie qui est, et je sais pas, j'espère qu'elle existe toujours. Et c'est vrai que dans cette librairie, ils avaient plein de bon, bien sûr, je vais encore montrer que je suis vieille, parce qu'ils avaient des VHS, beaucoup de vidéos VHS,
ah ouais,
des films lesbiens et des livres lesbiens. Donc ça, c'était vraiment, bah, c'était génial, quoi.
Trop
donc,
bien.
Ouais, donc c'est pas qu'il y avait rien du tout, mais c'est juste qu'au niveau, bon, j'avais aucun copain copine qui était comme moi, je pouvais pas en parler à personne, et puis c'est vrai que représentation à la télé, il y avait rien non plus, donc
ouais, c'est vrai.
Est-ce que tu te rappelles d'une représentation anglaise par exemple, ou anglo-saxonne de l'époque qui t'a inspiré, je sais pas?
Alors ouais, c'était When Night Is Falling, ça c'est un film canadien de Patricia Rosema.
D'accord.
Et je me souviens justement, bah, en fait, j'étais allée avec ma mère dans un, c'était, je crois que c'était une exposition de films et de la culture anglo-saxonne. Et c'était pas gay, c'était juste, ça couvrait tout, comme j'avais trouvé cette VHS et je l'avais achetée. Et je me souviens, entre autres, j'avais acheté d'autres choses aussi, et puis je me souviens, parce que la couverture de la vidéo, en fait, c'est les deux femmes, elles sont nues au lit, quoi. Donc, c'est vraiment, tu sais de quoi ça parle. Et je me souviens que ma maman avait regardé ce que j'avais pris dans mon sac, et je me souviens de la tête qu'elle avait fait quand elle avait vu ça. Elle m'a pas dit quoi, mais je sais que ça cogitait. Donc, ouais, When Night Is Falling, c'était sorti il y a plus de 20 ans, et c'était un film vraiment, bah, c'était magnifique à l'époque, quoi.
D'accord. Okay.
Donc on regardera pour notre culture. Ouais.
il faut absolument le regarder. C'est une femme qui tombe amoureuse d'une femme qui est dans un cirque.
Ok.
Ah. Et nice. C'est par curiosité, c'est en français ou en anglais?
C'est en anglais. Je crois que c'était filmé peut-être au Québec. Je sais pas. L'actrice, je crois que l'actrice principale est québécoise. Pascal Debure, je crois qu'elle s'appelle, je ne sais plus. Pascal Bussière, je crois qu'elle s'appelle. Et je crois qu'on la voit toujours dans des films en France. D'ailleurs, okay. Je crois qu'elle a fait un film avec une actrice française très connue. Je ne me souviens pas de son nom. Elle s'appelait La Cérémonie, je crois. Un film où encore, elle jouait un personnage queer.
D'accord, ok. Ok, ok. Comment en es-tu venue à travailler majoritairement sur des projets LGBTQ+ ?
Et bah, c'est justement parce que je finance mes projets moi-même, et comme je suis queer, et ben je voulais aussi vraiment donner une représentation positive, parce que justement il y avait vraiment, quand j'ai commencé, il y avait beaucoup trop de personnages LGBT qui étaient représentés d'une façon négative, où c'était vraiment déprimant. Il y a des films, beaucoup de films où le personnage lesbien soit se suicidait, ou se rendait dans un hôpital psychiatrique ou en prison, ou enfin bon, c'était vraiment des histoires déprimantes, quoi, et je voulais offrir une autre perspective.
D'accord. OK.
Ouais, c'est c'était un peu là, comme tu dis, en fait, les personnages à l'époque et à l'heure actuelle un petit peu aussi, en fonction des séries, avaient une vision un peu, c'était un peu un stéréotype en fait. Des personnages queer. Donc, tu voulais un peu changer la narrative par rapport aux personnages queer dans l'univers du cinéma et de la télé, du coup.
Absolument, changer la narrative, c'est exactement ça. Je vais me souvenir de ça, parce que c'est ça.
Super. Très beau projet. Et donc, du coup, bah, ça va nous permettre de rebondir sur la question suivante. Selon toi, quelle est la place de la culture queer dans l'univers du cinéma à l'heure actuelle?
Eh ben, je pense justement qu'elle est beaucoup plus importante qu'il y a 20 ou 10 ans. Maintenant, on voit beaucoup de personnages queer qui sont dans des séries ou dans des films non queer. Donc, c'est des personnages qui... l'histoire n'est pas, par rapport à eux, étant gay ou lesbien ou quoi que ce soit. C'est juste... ils sont queer, mais l'histoire, c'est pas sur ça, quoi. Il y a beaucoup plus de diversité, je pense aussi, mais on a encore beaucoup de boulot à faire. Il y a quand même beaucoup d'acteurs, quand même, et d'actrices qui n'ont pas fait leur coming out parce qu'ils ont peur de perdre des rôles. Et je pense qu'au niveau de représentation, bah, je vais revenir à ce que je disais tout à l'heure, quand j'étais adolescente, je connaissais pas du tout d'acteurs ou d'actrices qui étaient comme moi, quoi. Et dans les séries ou les films, Même il y a 15-20 ans, bon, il y avait des personnages justement qui faisaient leur coming out, mais qui n'étaient pas queer en réalité. Et donc, c'est vrai que maintenant, il y a un débat en ce moment. Les acteurs, est-ce que c'est... Is it okay to give gay queer roles to non-queer actors? Est-ce que
c'est pas... C'est vrai, ouais.
Et bon, c'est vrai qu'un acteur devrait être capable de faire n'importe quel rôle, mais c'est vrai qu'aussi, ce serait bien... Parce que l'authenticité, c'est un mot qu'on utilise beaucoup, qu'on entend beaucoup en ce moment, et je trouve que c'est très important, l'authenticité. Donc, je pense qu'on a encore beaucoup de boulot à faire. La différence, je pense aussi, c'est que quand on avait des personnages queer, ils étaient écrits justement par des gens qui n'étaient pas queer, qui se disaient « Oh, je veux écrire un personnage comme ci, comme ça ». Et ils ne consultaient pas du tout les gens de notre communauté. Alors que maintenant, ça se fait beaucoup plus. Je pense que maintenant, on comprend que si on écrit un personnage qui n'est pas comme nous, qui n'est pas comme nous à l'origine, il faut vraiment qu'on parle avec des gens qui sont comme nous. Par exemple, pour ma web series As We Are, l'un des personnages principaux est trans. Je ne suis pas trans, moi. Mais c'est Fox Fisher et l'acteur. Fisher, ouais, l'acteur. Et c'est Fox son... Alors, c'est très intéressant parce qu'en anglais, bien sûr, on a l'article «
they ». En français, c'est « yel », du coup.
Oui, d'ailleurs, j'ai lu que ça... En France, on n'est pas trop content d'avoir ce nouveau mot dans le dictionnaire.
Dans le dictionnaire, oui.
Et donc, Fox m'a beaucoup aidée pour écrire leur personnage parce que pour eux, c'était très important d'avoir justement cette authenticité, et pour moi aussi. Donc, je pense que ça a évolué beaucoup. Donc, c'est une positive.
Ouais, c'est vrai qu'il y a quelques jours, j'ai regardé Everyone is Talking About Jamie, le film qu'ils ont fait. Ils ont voulu, ils ont placé une drag queen en fait dans le film, sauf que la drag queen est jouée par un acteur, je crois que c'est Richard E. Grant, I think. C'est un homme blanc, cis, hétéro, et en fait, il y a eu... De ma perception et de la perception à ma copine aussi, on était en mode ah mais non mais pourquoi il y avait une sorte de décalage ouais dans son jeu d'acteur et tout ça c'était ouais
je pense que c'est dans en fait comme tu disais Déborah oui en effet il est important qu'il y ait une visibilité et qu'il y ait des personnages queer dans les séries etc mais aussi il faut se poser la question d'en effet qui est autour de la table quand le script est écrit, qui prend part à ces décisions et qui en fait écrit ce personnage parce que c'est basé du coup sur des stéréotypes si la personne qui écrit n'est pas une personne concernée mais du coup je voulais aussi rebondir sur le fait que tu as mentionné aussi cette question qu'on entend souvent en ce moment par rapport au fait que est-ce que si on a un personnage du coup je sais pas un personnage qui est trans est-ce que c'est OK ou pas d'être que ce soit joué par un personnage par une personne cis, etc., etc. Une personne qui est par exemple, qu'est-ce que j'allais dire, une personne queer, voilà, une personne lesbienne jouée par quelqu'un qui est straight. Du coup, que penses-tu? Quelle est ta vision par rapport à cette question-là? Est-ce que tu penses que ça devrait être joué justement, ces rôles devraient être joués par des personnes concernées?
Alors, au niveau des personnages trans, oui, absolument. Je pense qu'il y a pas, pour moi, il n'y a pas du tout d'hésitation. Et d'ailleurs, il y a eu un débat récemment, j'ai lu, en France, vous avez L-Word, Generation Q, c'est sorti en France. Oui. Donc, dans la série, la nouvelle série L-Word, je ne sais pas si vous l'avez vu l'original, parce que vous êtes plus jeune que moi, mais si vous voulez, d'accord, c'est bien. Et donc, dans Gen Q, il y a deux personnages qui sont... On ne parle pas de leur... C'est sous-entendu qu'elles sont cis, mais les actrices sont trans. Et j'ai lu qu'il y a des gens qui ne sont pas très contents parce qu'ils pensent que, justement, ces actrices devraient... que leur personnage aurait dû être trans. Et je trouve que c'était intéressant d'avoir cet argument-là, parce que je n'avais pas encore... en fait, je n'y avais pas du tout pensé encore. Et pour moi, je ne trouve pas ça problématique du tout. Je trouve que c'est très intéressant. Je trouve que, justement, c'est génial que ces actrices aient pu avoir l'opportunité de jouer des personnages cis. Mais au niveau des personnages trans, absolument, pour moi, c'est vraiment nécessaire parce que c'est l'authenticité. Et ces personnages ont justement été représentés tellement négativement dans le passé, justement parce que leur personnage avait été écrit d'une façon qui était négative. C'est vraiment très important pour eux qu'ils aient cette justice, quoi.
Mmh. Ouais, c'est vrai. Et je trouve ça intéressant. J'avais pas entendu du coup la contre-question par rapport aux personnes trans jouant des caractères du coup des personnages cis. Après, je pense que quand on pense à cette question-là, c'est intéressant. Mmh. Mais je pense que je pense qu'il faut regarder il faut avoir, comme ils disent les Anglais, see the bigger picture. Donc, il faut vraiment prendre une vue d'ensemble. Et je pense que on part pas du même point quand on dit que oui, il faudrait que les personnes trans jouent des personnages trans. Parce que du coup, les personnes trans sont des personnes qui sont du coup, j'aime pas trop ce mot-là, marginalisées, comme les personnes noires aussi, etc. Et du coup, quand on dit oui, des personnes trans ont joué des personnages cis, c'est bien justement. Parce que il faut pas non plus que les personnes trans soit cantonné que à des rôles trans. Mmh. Non, et justement, c'est bien qu'il y ait cette opportunité d'ouvrir aussi des rôles pour des personnes trans sur des rôles cis. Justement, ça montre qu'il y a un peu une ouverture et que, parce que justement, les personnes, des personnes trans ont tendance à être rejetées au niveau où on ne leur donne pas des rôles d'une manière générale. Donc, je trouve que c'est plutôt quelque chose de positif. Mmh. Je le vois comme quelque chose de positif.
Ouais.
Ah, c'est ça. Ouais. Après, je veux dire, il y a quand même, comme tu disais, Déborah, il y a cet aspect historique en fait du fait que les personnes trans ont été longtemps peu recrutées en fait, dû à ça. En tant qu'acteur, tu devrais pouvoir jouer n'importe quoi. T'es un acteur, t'es une actrice, un actrice. Mais à ce compte-là, si tu souhaites ne pas regarder la gender identity de tes personnages, enfin des acteurs en eux-mêmes. Prends un directeur qui, lui, a des notions, ou alors recrute quelqu'un qui a des notions et qui va corriger l'acteur. Par exemple, là, cette drag queen dans Everybody is Talking About Jamie, je pense qu'il y avait ce manque de personnes queer, une drag queen qui lui dit « Non, arrête, là, t'en fais trop », ou « Une drag queen, c'est pas comme ça, c'est plus... » Enfin bref, il y avait ce manque de direction à ce compte-là qui fait que cet acteur aurait pu mieux l'interpréter.
Donc après, ça fait cliché, c'est ça le danger, c'est qu'on est dans le cliché, quoi.
Ouais,
exactement, peut-être. Dans le stéréotype, ouais.
Puis il y a la question aussi des awards, je sais plus le nom du film, c'est un film où encore une fois, un personnage, un homme cis a joué un personnage trans. C'était quoi ? Cet aspect un peu politique où... Ben, c'est toujours les hommes blancs cis qui reçoivent des... Enfin, c'est un peu... On retourne à ça, en fait, qu'ils reçoivent les félicitations parce qu'ils jouent...
Ouais, c'est pour ça qu'au final, c'est pas juste qu'un rôle, en fait. C'est pas juste qu'un script, c'est pas juste qu'un film. Il faut vraiment voir l'entièreté et revoir aussi le pouvoir Power Dynamic Within Society. Donc, il faut vraiment voir qui détient le pouvoir et remettre ça dans le contexte de ce qu'on voit. Parce que aussi, pareil, les films, c'est un média, donc ça permet de véhiculer des idées. Donc... il faut faire attention aussi à ce qu'on projette, ce qu'on partage avec la société et ce qu'on dépeint du coup. Parce que quand justement dans ce genre de film-là, on a un personnage queer qui est joué par quelqu'un qui n'est pas queer et toutes les personnes travaillant autour de ce film n'étaient pas des personnes queer, c'est-à-dire qu'on va dépeindre une image des personnes queer qui est totalement en dehors de la réalité.
Ouais.
Parce que c'est vu d'un point de vue extérieur. Donc,
c'est ça.
On va passer à la prochaine question.
Désolée, juste pour préciser, du coup, ouais. Je viens juste de taper le film sur internet, c'est The Danish Girl.
The Danish Girl, ouais.
Et
ouais.
L'acteur, c'est Eddie Redmayne.
Super connu d'ailleurs.
Ouais. Ouais. Ça s'est aussi passé avec Transparent, je sais pas si en France.
Transparent, oui,
sur Amazon. C'était une série merveilleuse, mais bien sûr, malheureusement, Jeffrey Tambor jouait Maura. Mm-hmm. Et la directrice, juste la réalisatrice, a reconnu que c'était une erreur, en fait.
Psst, le placard.
Parlons un peu de tes projets. Quels sont tes projets actuels ?
Alors, je suis en train de développer un long-métrage avec deux productrices merveilleuses, qui s'appellent... Donc, le long-métrage s'appelle « Jodie ». Je veux pas en dire beaucoup parce que justement on est en train de le développer ensemble, mais c'est très queer en fait. C'est ça parle de, les thèmes sont c'est l'identité. Il y a beaucoup de musique grunge aussi parce que j'adore la musique grunge, donc c'est l'identité, la musique grunge. Et alors en français comment on dit? Alors c'est la ménopause, mais quand la ménopause est prématurée.
Ah oui, pré-ménopausée.
Donc, quand on, parce que le personnage a 40, 41 ans et on lui dit justement qu'elle vient de commencer la ménopause. Donc, c'est un peu jeune, quoi.
Ouais.
Donc, ça parle de ça. Et c'est très queer, c'est très lesbien. Mm. C'est très Brighton aussi.
Ouais, c'est très révolutionnaire parce que c'est vrai que ça, c'est des sujets qu'on ne parle pas du tout, absolument pas dans les films, dans le mainstream.
Et ben exactement, et la ménopause, c'est quand même quelque chose que ben, si on est une femme ou. C'est quelque chose qu'on. Ben, ça nous arrive, quoi.
Ouais, ouais qui touche la moitié de la population, quoi.
Exactement, donc il ne faut pas que ce soit tabou, quoi. Donc on a presque fini le script, ça fait. Le scénario, ça fait quand même près de 2 ans qu'on travaille dessus, quoi. Donc c'est.
Wow. C'est un long projet.
C'est un long projet, et en fait, c'est ça la différence aussi entre les courts-métrages et les longs-métrages. Quand tu fais un court-métrage, bon, The World Can Wait, je l'ai écrit en quoi, un week-end, quoi. Donc ça a été un vrai choc. Quand j'ai commencé à écrire Jaudy et que ça, il a eu beaucoup de vie ce scénario parce qu'il a changé beaucoup, il a changé énormément. Et les productrices en ce moment ont commencé à justement chercher le financement. J'ai de la chance parce qu'elles ont déjà financé un long métrage, donc je pense qu'on va pouvoir faire ça, j'espère, peut-être l'année prochaine, quoi, en 2022. Et puis, je suis aussi en train de faire un documentaire. Et c'est la première fois. Donc, le documentaire, ça a été commissionné par la chaîne locale à Brighton pour qui je travaille. Et c'est sur un groupe qui s'appelle Sirène. C'est un groupe de... ce sont des musiciennes lesbiennes qui avaient un groupe dans les années 80. Et elles se sont reformées il y a 10 ans à peu près. Elles ont entre 60 et 73 ans.
Ah, trop et, cool.
Ouais. Donc, en fait, c'est sur leur groupe. C'était un groupe musical, mais c'était aussi un groupe de théâtre. Elles faisaient du théâtre féministe assez révolutionnaire dans les années 80. Donc, je suis en train de réaliser et de monter ce documentaire.
Sympa.
D'accord, OK.
Des super projets, en vrai, honnêtement.
Ouais.
Et j'espère que du coup il y aura les financements pour le long métrage. Ça te permettrait justement de pas forcément avoir uniquement à devoir tout le temps mettre de l'argent, de sortir d'argent de tes poches. Et ce documentaire, c'est super cool du coup. Donc bien, on suivra ça de près. Tu nous diras une fois que ça sera lancé
ouais, carrément.
Et disponible.
Bon, du coup, par rapport à tous ces projets, queer, c'est le mot d'ordre. Justement, quels sont les obstacles ? On pense que tu en as déjà dû rencontrer, mais dans ta carrière, as-tu déjà rencontré des obstacles en tant que personne LGBT ?
Eh bien, en fait, je dirais que les plus gros obstacles que j'ai eus, c'est en étant une femme. Et aussi parce que j'étais pas née dans cette industrie, parce que c'est vraiment beaucoup plus facile quand justement tu grandis dans cette industrie, quand ta famille est déjà dans l'industrie ou quand tu connais les bonnes personnes qui vont t'aider et quand tu as de l'argent aussi. Ma maman était infirmière, il n'y a pas du tout d'artiste dans ma famille. Et j'ai pas beaucoup, donc j'ai pas d'argent, donc c'est vrai que c'est pour ça que je disais tout à l'heure que j'ai réalisé que 3 courts-métrages jusqu'à maintenant. Donc c'est, et en tant que femme aussi, je me souviens quand j'ai commencé dans cette industrie, quand je rencontrais des gens de l'industrie, bien sûr c'était en général c'était des hommes, la première question qu'ils me posaient c'est « Oh, t'es une actrice !» Parce qu'il assumait que parce que j'étais une femme, j'étais une actrice, quoi. Que c'était, c'est, ce que je pouvais faire, c'était jouer. Et je suis une très mauvaise actrice. Donc et donc, oui, c'est vrai que ça a plutôt été ces obstacles dans ce niveau-là. Je me souviens une fois, justement, ce long métrage, Jody, quand il était complètement différent de ce qu'il est maintenant. Mais c'est vrai que je l'avais envoyé à un agent. C'était une femme. Et elle m'avait dit que l'histoire n'était pas assez mainstream pour elle. Mainstream, ça veut dire en fait, comment on traduit en français mainstream ?
Je pense qu'on...
Commercial, en fait, c'était pas
assez commercial.
Commercial, ouais.
Parce que c'était justement une histoire gay. Et ça, c'était juste il y a 3 ans.
Ah ouais.
Donc ça m'avait un peu déprimée à l'époque. Bon, ça m'avait déprimée un tout petit peu. Et en fait, ça m'a donné la ténacité. Et je voulais vraiment... lui prouver que, qu'elle avait tort, quoi. Et donc, j'espère lui prouver ça l'année prochaine, quand le film sortira.
On croise les doigts pour toi.
Ouais, carrément.
Waouh, c'est intéressant de voir, ouais, même que du coup... Bah, je pense qu'on aura une question par rapport à ça, donc je vais pas élaborer. Je vais te poser la prochaine question, du coup. Alors, du coup, de par ton expérience en Angleterre et de ce que tu vois dans les médias par rapport à la France, qu'est-ce que tu penses qui manque dans l'univers du film français pour être un peu plus inclusif, et qu'est-ce qu'il y a de positif ?
Eh ben, je pense que, en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, au niveau que la France n'est pas vraiment progressive. Avant, je regardais la France comme un pays des droits de l'homme, et ça, cette opinion a vraiment changé, parce que, bon, le mariage gay, c'est très récent en France. Et je me souviens à l'époque, le nombre de gens qui manifestaient contre notre droit de se marier, mais c'était dans les milliers, et ça m'a fait peur, ça m'a vraiment déprimée. Et je pense que les mentalités sont encore très... traditionnel, en fait. On aime beaucoup les traditions en France, et je pense que ça, c'est un peu... on voit ça un petit peu dans les médias quand même. Bon, d'un autre côté, c'est vrai que ça fait plus de 20 ans que je ne vis pas en France, donc les médias français... À l'occasion, je Google actrice lesbienne ou film lesbien, tout ça, et en fait, il n'y a pas grand-chose. Même au niveau des sites français lesbiens, j'en ai pas trouvé beaucoup. Bon, il y a petite Eva, donc ça, c'est génial. C'est pour ça que je suis très contente de pouvoir travailler avec toi, Eva, parce que pour moi, c'est un honneur. Bon, c'est vrai que, bien sûr, avec TikTok, je ne suis pas la génération TikTok, donc la première fois que j'ai découvert TikTok, en fait, c'était quand j'ai travaillé sur ta vidéo, Eva. C'est vrai qu'il y a beaucoup, apparemment, il y a quand même une présence lesbienne sur TikTok qui est assez intéressante. Mais au niveau des médias, par exemple, en Angleterre, on a eu, depuis que je vis en Angleterre, donc ça fait plus de 20 ans, on a toujours eu des présentateurs qui étaient gays. Graham Norton, Julian Clary, bon, c'était plus bien sûr les hommes que les femmes, comme d'habitude. Mais je me souviens que, bon, ils avaient des émissions qui étaient regardées par les millions, quoi. Alors qu'en France, je ne sais pas si ça aurait été possible. Je ne sais pas si ça a changé, mais c'est vrai qu'on a beaucoup plus de gens qui sont out en Angleterre, dans les médias, qu'en France. Et puis, Méfi, tu parlais de l'acceptance aussi. C'est vrai qu'en Angleterre, on est beaucoup plus inclus qu'en France. Je reviens à ce mot « yel ». C'est « yel », c'est ça ?
C'est ça.
Ce mot qui vient de sortir dans le dictionnaire, je crois, dans le dictionnaire, qui fait des vagues en France, parce que les gens ne sont pas contents, justement, qu'on ait ce mot. Et je pense que ça, bah, ça te dit tout ce que tu peux savoir sur les mentalités françaises, quoi, en fait. Mais dans le positif, c'est vrai que, bon, on a quand même une réalisatrice comme Céline Sciamma, qui a fait Le bal des pieuvres. Je crois que l'un de ses premiers films, ou ce premier film s'appelait, c'est un film lesbien il y a des années. Et puis, bien sûr, Portrait d'une jeune fille en feu, en français, ça s'appelle ?
C'est ça.
Et Eva, tu parlais du festival de mon festival Film Pride, et l'année dernière c'était en août, mais bon, ça me fait comme si c'était l'année dernière, j'ai eu le plaisir d'interviewer une réalisatrice queer, justement, qui a fait un court-métrage que je recommande vraiment, qui s'appelle Les Gorges. Elle est très jeune, elle a juste dans la vingtaine, quoi, mais vingtaine, 21, 22, 22, je sais même pas si elle a 22 ans, et en fait elle a fait un court-métrage magnifique, très poétique, très français, je dirais. Et je pense qu'elle, elle va aller loin. Et je voudrais justement découvrir plus de réalisatrices comme elle, qui sont out, qui sont proud de faire partie de notre communauté. Et je pense quand même, c'est comme on disait tout à l'heure, on a quand même du chemin à faire, quoi.
Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Ben, justement, vu que tu as mentionné La jeune fille en feu, c'est vrai que ça a eu beaucoup de répercussions, mais en même temps... Les histoires sont toujours un peu dramatiques désolée mes filles pour le spoil.
Tu vas me spoiler.
Mais un peu négatif, donc je pense que je vais développer un peu plus. Je vais te laisser mes filles poser la prochaine question.
Ouais, du coup c'est en lien avec du coup La jeune fille en feu, comme tu l'as mentionné. Et pourquoi donc des films comme La jeune fille en feu ou La vie d'Adèle arrivent-ils à percer dans les médias ?
Alors oui, c'est très intéressant. Ce sont deux films qui sont quand même ce sont des extrêmes complètement opposés. La vie d'Adèle était vraiment très explicite. Et La jeune fille en feu, c'est un film très poétique. Mais bon, il ne se passe pas grand-chose, quoi, au niveau... c'est pas grand-chose. Alors que la vie d'Adèle, on voit presque trop, en fait. Si le film avait été réalisé par une femme, je pense qu'on serait toutes beaucoup plus confortables à le regarder. C'est très problématique. Je pense qu'ils ont été, qu'ils ont eu du succès, bah justement, bah la vie d'Adèle, justement, parce qu'il était très explicite, parce que c'était choquant. Parce qu'aussi, il y avait quand même un côté honnête, parce que au niveau de leur relation, parce que c'était basé sur une bande, comment ça s'appelle en français, comic book, une bande dessinée. Non,
ah oui, ah oui. Si, la bande dessinée, ouais. Le bleu est une couleur chaude.
Ouais, voilà. Et donc, bon, c'était, je sais pas, enfin, à l'époque, je l'avais aimé ce film parce que j'étais vraiment heureuse de pouvoir voir deux filles, bah, justement, avoir une sexualité très, très ouverte. Mm-hmm. Mais c'est vrai qu'avec le recul, le fait qu'il a été réalisé par un homme et que les deux actrices ont dit qu'elles n'avaient pas du tout aimé ce processus, ça me rend très inconfortable. Mm-hmm. Mais c'est vrai que je pense qu'à l'époque, il était très, comment dire, très progressive, justement, de ce côté. On n'avait pas vraiment vu ça. Et Portrait d'une jeune fille en feu, je dis oui, c'est un autre extrême, parce que c'est poétique, c'est vraiment, c'est très beau. Moi, je trouve ça un peu énervant quand même qu'on ne voit pas, parce que pour moi, c'est très important, quand je vois un film lesbien ou un film avec des thèmes queer, je veux voir tout. Je veux voir notre sexualité, parce qu'on doit en être fier quand même de notre sexualité. Il n'y a rien à cacher. Mmh. Et pour moi, le fait que justement, on voit rien, pour moi, ça me fait penser, ah, mais pourquoi ? Est-ce que c'était parce que, pas forcément pour elle, mais pour les films justement lesbiens où c'est juste sous-entendu ou quoi que ce soit, je me dis, mais pourquoi vous cachez ça ? Est-ce que c'est parce que vous n'êtes pas confortable ? Ou parce que vous vous dites que si vous montrez trop, le film ne va pas se vendre ? Il y a quand même des connotations qui sont un peu problématiques. Et je pense que je suis allée complètement dans une tangente là.
non, c'est très intéressant. Honnêtement, ouais. Parce qu'il y a aussi l'aspect où dans la vie d'Adèle, il y a Adèle retourne vers un homme. Dans La jeune fille en feu, ben il y a ce mariage
non,
forcé.
On veut pas savoir.
Sorry. Bref, il y a toujours cette présence masculine qui fait que voilà. Ce pouvoir masculin qui fait que dans les deux cas, il est là et il garde l'emprise, une certaine emprise. Donc, alors que dans tous les autres qui n'ont pas percé, eh ben, il n'y a pas forcément cette emprise, ou du moins, c'est plutôt, bon, je ne sais pas si je peux me rappeler, mais d'un autre film, en tant que film français, ouais, je ne sais même pas s'il y a des... j'ai aucun nom de film français avec des personnes queer, enfin de femmes, où il n'y a pas d'emprise masculine qui ne gagne pas du coup, ouais.
Ouais, c'est vrai. Ouais, la présence masculine, ouais, un peu plus forte, qui domine un petit peu, quoi.
Ouais. Ouais. Raison. Et je pense que bah c'est la mentalité française aussi. Hein. On a qu'à regarder le mouvement #MeToo, la différence entre les réactions françaises et en Angleterre. Je me souviens qu'il y avait quand même beaucoup Catherine Deneuve qui a, je crois si je me souviens bien, a écrit une lettre justement pour défendre les hommes. Et c'était pas la seule, quoi. Et donc en fait, je pense que ça on voit ça dans le cinéma français, malheureusement, aussi.
Bon, on a vu sur ton site, on va changer un petit peu de contexte, mais on a vu sur ton site que tu as reçu plusieurs awards. Donc comme je disais sur notamment pour le film The World Can Wait. Peux-tu nous en dire plus? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé, etc., le process et tout?
Oui, donc The World Can Wait, je pense que ça a été le film qui a eu le plus de succès. Et c'est, je pense, ça parle justement d'un personnage lesbien qui se retrouve dans une... emprisonnée, en fait. Et autour d'elle, il y a tous les TV executives, les gens, en fait, qui ont le pouvoir de décider ce qui va se passer avec son futur, quoi, dans la série. Et je pense qu'il a vraiment résonné avec les spectatrices, notamment, parce que dans les personnages lesbiens, En fait, eh ben, beaucoup, dans le passé, moins maintenant, mais dans le passé, eh ben, il mourait. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, un personnage fait son coming out et après, eh ben, il meurt. Ouais. Et donc, je pense que ce film, a, justement, c'est une parodie de ça. Et je pense que le film a vraiment, vraiment résonné avec ceux qui l'ont vu pour cette raison, quoi. Donc, il a reçu le prix de l'audience, ça se dit ? Le prix de l'audience en français ? Audience Award, je ne sais pas.
Ouais, ah, ouais, le prix.
Ouais. Ouais, je ne saurais pas traduire ça.
Donc en fait, c'est le public qui a voté pour leur film préféré du festival. Ils ont
D'accord, super.
Voilà. Okay. Et ça, c'était à Las Vegas. C'était un festival qui s'appelle Klexacon, qui est un festival queer lesbien à Las Vegas tous les ans. Et donc oui, bah, ça, c'était mon plus gros succès, je pense.
D'accord, d'accord, super. Et du coup, congratulations. Du coup, tu as été là-bas
Oui, j'étais là-bas. En fait, j'hésitais parce que j'aime pas du tout prendre l'avion et j'y allais toute seule et j'avais pas beaucoup d'argent. J'avais un pressentiment. En fait, je me disais, il faut que j'y sois. Donc, j'y suis allée, j'étais toute seule et j'ai passé 5 jours à Las Vegas. Et aussi parce que Las Vegas, c'est complètement l'opposé de tout ce qui m'intéresse. Quoi. L'argent, on n'est vraiment pas intérêt. Donc, c'était vraiment pas un endroit que je voulais visiter. Mais en fait, j'y suis allée et je suis contente d'y être allée parce que j'ai rencontré des gens vraiment géniaux. Et j'ai vu beaucoup de films. Et bon, et puis, je suis repartie avec un prix. Donc, voilà.
Yay! Ah bah, bravo!
T'as bien fait d'y aller, du coup. T'as écouté ton instinct, c'était le bon. la bonne chose à faire. Super. Alors, du coup, pour continuer un petit peu, donc, on a lu avec Eva un interview que tu as, je crois, tu avais répondu à des questions pour Brighton, dans lequel tu disais qu'il était, en fait, difficile de percer dans le milieu du cinéma en tant que filmmaker. Et donc, pour nos auditeuristes qui n'ont pas forcément lu cet article, est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi ?
Eh bien, je vais être honnête, je ne me souviens pas du tout de cette interview.
c'est sur Google, pourtant.
Eh bien, j'essaie de me rappeler ce que je voulais dire, mais... En fait, je pense que ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure au niveau de pas être né dans cette industrie, de ne pas vraiment savoir aussi comment networking, je sais pas comment on dit en français, quand on rencontre des gens, qu'on doit se vendre en fait. En fait, je sais pas vraiment ça. Je pense que je me suis beaucoup améliorée avec l'expérience, mais c'est vrai que je savais pas du tout me vendre. Donc, quand on sait pas se vendre, c'est vraiment difficile de convaincre les gens qu'on a quelque chose à dire, quoi, en fait. Donc je pense que oui, c'est probablement ce que je voulais dire.
On te prend un peu de cours, désolé.
C'est ça, désolé, ouais. Mais c'est vrai que l'aspect de networking, je pense que c'est quelque chose qui est très anglais aussi, hein, anglo-saxon. Le fait de... Alors, networking, c'est créer son réseau.
Ouais,
je pense
qu'on
pourrait le traduire comme ça. Créer un réseau et en fait, vraiment contacter des personnes, ou même aller dans des événements. Il y a des contacts, des gens importants avec qui tu pourrais faire des projets ensemble, etc. Et c'est vrai que c'est un aspect assez important ici en Angleterre. C'est vrai que sans networking, tu vas moins loin.
Ouais.
C'est toujours bon d'avoir des bons contacts. Mais c'est dur de savoir se vendre. Même moi, je trouve ça super compliqué. Donc, je compatis.
C'est ça, mais comme tu dis, c'est essentiel. Et c'est beaucoup plus beaucoup plus facile en fait pour quelqu'un de te souvenir de toi si tu les rencontres en personne. Et donc il faut avoir cette confidence.
Confiance.
Il faut vraiment avoir la confiance en soi parce que si on se présente en étant timide, en étant et il faut aussi trouver la balance parce qu'il faut pas non plus se vanter trop, faut pas non plus être arrogant. Donc c'est vraiment subtil comme nuance, quoi. Mais c'est aussi très important de faire une bonne impression parce que bon, les gens ils reçoivent beaucoup d'emails, ils lisent pas leurs emails. Il faut qu'ils se souviennent de toi. Pour se souvenir de toi, il faut que tu aies fait une bonne impression. Pour faire une bonne impression, il faut qu'ils t'aient rencontré. Et c'est vrai que bon, ça s'apprend. Hein. On n'est pas tous nés avec justement ce talent. En général, ça s'apprend et ça s'apprend avec l'expérience. Quoi. Le plus on le fait, le plus on a d'expérience et plus on devient, on a confiance en soi. Quoi.
C'est vrai, avec la pratique.
Ouais. Ben, du coup, pour rebondir un petit peu sur ça, quel conseil donnerais-tu pour des filmmakers qui souhaiteraient travailler sur des contenus LGBT ?
Alors, je leur dirais bah, qu'ils soient LGBT ou pas, en fait, qu'ils le fassent, quoi. Parce que maintenant, justement, on peut, avec son téléphone, on peut faire des films. Surtout quand on commence. Donc, faites des films, faites des films. Et n'ayez pas peur, explorez vos désirs, vos passions. Et l'argent n'est plus. Quand on commence, parce que je sais que je parlais d'argent tout à l'heure, mais l'argent n'est plus nécessairement un obstacle maintenant parce que. Il suffit d'être inventif, il suffit de penser outside the box. Encore en français, je ne sais pas comment on dit
En
outside
dehors,
the
ouais, en dehors
des normes.
des normes.
Ouais, voilà. Et c'est pareil, on a vu beaucoup pendant les confinements, il y a quand même beaucoup de courts-métrages qui sont sortis parce que comme tu disais tout à l'heure, Eva, je travaille pour quelques films, des festivals, des festivals, des festivals.
Festival.
Festival.
Ouais.
Donc, j'ai vu beaucoup de courts-métrages qui sont sortis du confinement, mais en fait, c'était génial, quoi. Les gens ont vraiment pensé, ils se sont adaptés. Donc, il ne faut pas penser, bon, ben, j'ai pas d'argent, donc je peux rien faire. C'est pas du tout, c'est pas vrai. Surtout maintenant qu'on a TikTok, YouTube, Vimeo, il y a tellement de plateformes où on peut justement, qu'on peut utiliser pour notre portfolio. C'est ce que je fais moi-même. J'ai utilisé YouTube pour mettre toutes mes vidéos. Gratuitement pour que les gens puissent les voir en espérant que quelqu'un un jour me découvrira comme ça. Donc oui, mais il faut aussi vraiment que vous le viviez. Si vous pensez, oh, je veux faire un film parce que ça va être marrant, parce que bon, parce que je veux faire de l'argent, eh ben ça va pas marcher parce que bon, moi comme je disais, ça fait plus de 20 ans que je suis dans cette industrie, mais ça fait moins de un an que je commence à gagner ma vie dans cette industrie. Et quand je dis gagner ma vie, c'est juste pour payer mon loyer, payer les factures, me nourrir et nourrir mon fils, quoi. Et bon, et acheter des habits, voilà. C'est pas des millions. Donc, si vous pensez qu'être un filmmaker, vous allez avoir du succès, vous allez gagner des millions, c'est pas, ben,
C'est pas la bonne industrie.
pas la bonne industrie pour vous, quoi. Faut vraiment la vie, faut vraiment que ce soit une passion. Donc, ayez cette passion et explorez votre passion. Et je vais revenir aussi au mot authentique. Il faut vraiment explorer votre authenticité parce que vos histoires, elles sont personnelles à vous et ça se ressent en fait. Et c'est ça qu'on veut. On veut de l'authentique dans les histoires qu'on regarde. Donc, pour moi, c'est très important.
Eh bien, merci.
Authenticité,
Merci pour
j'adore.
cette réponse. Ouais.
Merci beaucoup, Déborah. Et donc, on arrive vers la fin de ce podcast, de cet épisode. Je vais te poser une question du coup un peu plus tranquille, dans un autre registre totalement différent. Si tu devais aller donc sur une île déserte pendant 3 mois, quelles seraient les 3 choses que tu emmènerais avec toi?
Alors, ça va être un peu cliché quand même. Ça va être un bloc-notes pour pouvoir écrire avec un stylo. Est-ce que ça fait deux ou ça fait un? C'est la même
On
chose.
est gentil, on va dire ça fait
Alors après, ce serait bon. Je ne considère pas les animaux comme étant des choses, mais j'aimerais quand même emmener avec moi des animaux. Donc j'espère que ça peut compter.
Ah, tu tires sur la corde. Là, c'est un peu plus compliqué, peut-être
Philosophique, je ne sais pas si ça compte comme des choses. Bon, si ça compte pas, alors bah, j'en
Ça compte
porterai deux plantes.
pas. Ok, donc un bloc-notes pour écrire et 2 plantes comme compagnon. Merci.
Sais quoi, je pense que j'aurais fait le même choix que toi, essayer de négocier pour les animaux.
Ouais, bah moi aussi, en écrivant la question, je me suis dit, oh, je prendrais bien mon chat quand même, mais bon, non. Je suis pas sûre que ça compte.
Bon, on a deux questions, deux dernières questions. Il y en a une, justement, celle que je vais te poser, c'est en relation avec notre question directrice, en fait, globale pour ce podcast. Selon toi, la culture queer a-t-elle un avenir dans le cinéma, après tout ce qu'on vient de parler?
Absolument. Je pense que toutes les cultures ont une place dans le cinéma. Et je pense que notre culture queer évolue dans les médias, justement, et je pense qu'elle évolue dans le bon sens. Et je pense qu'elle ne va pas s'arrêter d'évoluer, en fait. Donc, absolument, on a tous une présence et je pense qu'il nous faut plus d'opportunités, quoi. C'est ça, en fait.
Exactement,
D'accord.
c'est le début, mais plus d'opportunités pour sûr, pour avoir un peu plus de visibilité. Merci beaucoup, Déborah. Et donc, pour nos auditeuristes qui, du coup, t'écoutent et qui aimeraient te suivre sur les réseaux, où est-ce qu'on peut te trouver?
Alors, j'ai un site, deborahespect.com, c'est mon nom, Deborah Espect, Espect comme respect, mais sans le R, donc c'est un mot. Et en fait, la façon plus facile de voir toutes mes vidéos. Et au fait, je viens de me rappeler ce que j'ai dit tout à l'heure. Je parlais de l'actrice Pascale Bussière. Je devrais dire que, en fait, le film dont je parlais, ça s'appelait pas La Cérémonie, c'est un autre film. Il s'appelait La Répétition. Et je disais qu'il était récent, c'est pas du tout. Ça fait 20 ans qu'il est sorti.
Ah ouais.
L'actrice avec laquelle elle jouait, c'est Emmanuelle Béard.
D'accord.
Ah, d'accord.
Ok. Quand même, ouais, Emmanuelle Béard. Merci du coup pour la rectification. Donc, bah, merci encore à Déborah pour nous avoir accordé du temps. Et si vous souhaitez découvrir ses projets ou bien même la soutenir, rendez-vous sur https://Déborah, donc AH à la fin, espect, espect.com.
Si vous avez apprécié cette écoute, on vous encourage à déposer un petit pouce bleu ou à laisser une étoile sur vos applications de podcast préférées afin d'améliorer son référencement.
Vous venez donc d'écouter Le Placard, émission préparée et présentée par Petite Eva et moi, mes filles. Rendez-vous donc le mois prochain pour un nouvel épisode du Placard. Merci et au revoir!